应该是打高尔夫了。
Au revoir les enfants. À bientôt.
I love you, but you don't know what you're talking about.
I love you too.
Elle vous a trahi et vous n'avez jamais compris pourquoi.
Comment savez-vous toutes ces choses?
Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission de cinéma sur Transistor. Cette semaine, notre toile se couvre des images particulièrement émouvantes du dernier film de Marco Bellocchio, Fait de beaux rêves. Et pour en parler avec moi aujourd'hui, ce sont les yeux et la voix, bien sûr, d'Anastasia. Bonjour à toi, Anastasia.
Bonjour, Ami.
Alors, nous sommes à Turin en alternance entre les années 60 et la fin des années 90. Et Massimo est un enfant joyeux, choyé par une mère rayonnante qu'une ombre de tristesse éclipse pourtant parfois. Et une nuit, sa mère meurt brutalement. L'enfant n'aura pas d'explication, rien que le poids de ce deuil avec lequel grandir et se constituer une carapace contre le monde. Mais 30 ans plus tard, Massimo est devenu un journaliste reconnu, mais la douleur est toujours là, secrète, et elle crève l'écran. Et c'est bien elle qui est le personnage principal du film, cette douleur immense. Et Bellocchio s'ingénie à en montrer toutes les finesses et, toute l'emprise sur la vie de cet homme noué, pour ainsi dire, par le deuil. Alors voilà, Anastasia, je te laisse peut-être commencer par me donner ton avis sur ce film.
Bon, j'ai beaucoup aimé. C'est un de ces films où tu commences à voir le film et tu comprends déjà que ce film va être beau et que tu vas aimer. Des fois, c'est un sentiment trompeur, mais heureusement, c'est pas le cas pour ce film-là. Et j'ai beaucoup aimé, j'ai adoré l'esthétique et l'histoire assez ordinaire, mais présentée d'une façon assez, assez pudique, je dirais.
Oui, je suis d'accord avec toi, entre autres sur le fait que la première scène donne déjà le ton du film. J'ai été fasciné par cette première scène, ça, vraiment. Et il y a une espèce de simplicité à la fois majestueuse et déchirante dans ce film qui en fait pour moi un très très bon, voire grand film. Mm. Et ça faisait longtemps que j'avais plus vu quelque chose d'une telle intensité au cinéma.
Ouais.
C'est vraiment un tourbillon d'émotions qui emporte le spectateur et c'est, oui, c'est un grand moment à passer.
Là, je suis absolument d'accord. Et en fait, pour moi, déjà le titre, Fait de beaux rêves, et ben en fait, on a rêvé 2 heures et quelques avec le personnage principal. On était dans son rêve parce que lui, il était en train de... Il a bien accompli le devoir de sa mère. Il a fait de beaux rêves jusqu'à la fin de cette histoire.
En fait, il a passé sa vie à rêver son enfance et à rêver son passé. Et ça, Bellocchio nous le montre avec une extrême finesse, je trouve. Il nous montre à quel point le deuil s'immisce partout dans tous ces 30 ans de vie. Et toutes les scènes qui nous sont présentées, il n'y en a aucune qui est criante, il n'y en a aucune qui verse dans le cliché, mais chacune distille sa petite douleur et on la voit vraiment suinter partout dans chacune de ces scènes petit à petit, y compris dans des scènes où Massimo est journaliste, par exemple à Sarajevo pendant la guerre, et partout, dans toutes les séquences, on a vraiment ce personnage en deuil, même s'il ne s'en souvient pas forcément sur le moment. Et je trouve ça très très fort. Ça, et puis le fait que Bellocchio réussit à ne pas faire un film tire-larme, qui essaye de nous faire pleurer. Il y a une séquence particulièrement émouvante, mais qu'il a l'intelligence de terminer en queue de poisson sur un échec presque comique.
Oui, c'est ça.
mais sinon, il y a vraiment une grande retenue et une grande finesse dans le traitement du sujet. Je ne sais pas si tu es d'accord.
Oui, je suis absolument d'accord. En plus, paradoxalement, à ce que tu dis, oui, le personnage principal est toujours en deuil, mais ce n'était pas vraiment le cas. Il regrettait énormément la perte de sa mère, mais il ne le comprenait pas. Et du coup, il refusait absolument le fait qu'elle soit partie, en fait. Et c'est pour ça qu'il donnait un soufflé à un prêtre comme ça, mais c'est absolument magnifique. Je trouve déjà que l'acteur, ce petit enfant, il est formidable. Et du refus de la religion, et le fait que pour lui, un monstre Belphégor est plus saint que, voilà, que le dieu même. Ça rend de ce deuil quelque chose de très sincère pour nous et pour cet enfant.
Je suis d'accord sur un certain nombre des points que tu as évoqués. Premièrement, c'est vrai que c'est là qu'il y a de la finesse aussi, parce qu'il suffit de montrer les choses telles qu'elles sont et il y a déjà de l'émotion. Il n'y a rien de plus déchirant que de voir un enfant refuser la mort de sa mère. Et bah sur ces scènes-là, il y a une musique d'orgue très très mesurée derrière, mais ce qu'on entend claquer, c'est vraiment le nom de l'enfant. Et ça suffit à créer une scène et à faire quelque chose d'absolument magnifique. Un deuxième point, c'est cet enfant justement, parce que l'acteur, donc un certain Nicolo Cabras, est vraiment phénoménal. L'acteur qui joue Massimo enfant est impressionnant et je pense qu'il contribue beaucoup à l'impression que m'a faite la première scène, par exemple. Qui donc est une scène de danse, et la danse a une place extrêmement importante dans ce film. Le film est vraiment encadré par trois scènes de danse. Ouais. La première, donc l'enfant qui danse avec sa mère. Ouais. La deuxième, le personnage qui ne danse pas avec la femme avec laquelle il est. Ce personnage qui vit en retrait, qui ne vit pas sa vie, qui est perclus par le deuil. Et puis une dernière scène de danse complètement libératoire cette fois-ci et qui intervient à la fin du film. Et ça en dit long sur la place du langage des corps dans ce film, parce que tous les messages passent vraiment par l'évocation des... Pas par les gestes, par la direction des regards, et vraiment par la façon dont la caméra s'approche des corps, la vie des corps dans l'enfance, la façon dont la mère joue avec le fils, et à l'inverse, comme tout est figé, dans la partie dans les années 90, est quelque chose qui m'a vraiment impressionné.
Oui, absolument. Et par rapport au corps, là, ça m'a... je ne sais pas, j'étais un peu... je me suis posé la question sur une relation pas très évidente, mère et fils. Tu te rappelles de la scène où Massimo est chez son ami et dans une maison luxueuse, voilà, avec sa mère. Et ce sont des rapports un peu, je sais pas, c'est pas très évident. On voit bien que c'est une mère et un fils, un petit-fils en plus. Mais ça peut paraître un peu bizarre ce que je dis, mais pour moi, il y avait vraiment une évocation de relations sexuelles. C'est pour ça peut-être aussi qu'il y avait des doutes de la part de Massimo dans sa vie adulte avec ses femmes, ses copines. Je crois que pour lui, c'était vraiment un remplacement jusqu'à un moment, la relation avec une femme, c'est-à-dire une relation avec sa mère. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de distinction.
Clairement, les femmes sont un substitut de mère tout au long du film, jusqu'à la dernière, donc, qui cette Elisa, jouée par Bérénice Bejo, qui n'est pas médecin pour rien, qui intervient lors d'un paroxysme d'angoisse du personnage. Et oui, les femmes sont vraiment de l'ordre du substitut, et il y a tout un poids psychanalytique dans ce film. Et ça fait intervenir, c'est l'occasion pour moi de parler de toute une galerie de personnages secondaires qui sont extrêmement travaillés et qui là aussi sont très 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 fins pour des personnages secondaires. Et c'est encore apporté au crédit de Bellocchio dans ce film. Je pense à ce prêtre au début du film qui essaye de faire la part des choses entre la science et la religion, qui dit à Massimo qu'il doit avoir de la foi, mais de la foi en lui-même d'abord, et qui est peut-être plus qu'un simple prêtre. Il y a ce vieux journaliste aigri qui joue un rôle de déclencheur à un certain moment du film. Et puis il y a le rôle du père, ce mauvais père, il faut bien le dire, mais qui, malgré tout, est quand même le père qui emporte son fils dans un match de foot et finit par lui redonner le sourire après la mort de sa mère, qui est quand même un père qui a souffert toute sa vie aussi, on finit par s'en rendre compte. Et tous ces personnages secondaires posent ce qui est peut-être l'une des questions fondamentales du film, la question du mensonge et de la vérité, de ce que l'on croit, de la foi. Et on se rend compte que Massimo est entouré de personnages qui ne lui disent pas la vérité et la question se pose de ce qu'on doit dire, finalement.
Les autres personnages, parce que c'est vraiment, il pose la question à pourquoi vous ne m'avez pas dit. Et du coup, vraiment, je crois que tous ces personnages, en réalité, ont laissé à Massimo de rester dans son rêve. C'est vrai, on est vraiment dans ce jeu du mensonge et de la vérité. Et du coup, le milieu de ce jeu, c'est le rêve.
Exactement. Tout ce, oui, ce rêve, mais ce rêve qui vire quand même au cauchemar, qui constitue, je pense qu'on peut être d'accord là-dessus, un film assez monumental. Et je le répète encore une fois, d'une vitalité impressionnante dans la façon dont les corps sont approchés par la caméra. La mise en scène de Bellocchio est vraiment époustouflante dans ce film. Et tu l'as dit, Anastasia, ça s'illustre dans la première scène. Ça s'illustre aussi dans la dernière, qui est absolument magnifique et qui porte tout le symbole du deuil enfin fait.
Ouais, accompli.
Enfin accompli, voilà.
C'est absolument formidable, je suis d'accord. Je trouve que c'est un film qui nous fait réfléchir beaucoup. Il y a plein de choses, plein de détails qu'on peut évoquer. C'est un film à voir plusieurs fois.
Ben, je me suis posé la question d'y retourner le lendemain. En effet, et je pense, chers auditeurs, que ça doit être le signe qu'il faut absolument que vous voyez ce film qui est en salle depuis 10 jours au CNP. Terreau, alors allez-y, sans plus tarder, ça s'appelle « Fait de beaux rêves, Fai bei sogni » en italien, de Marco Bellocchio. Et l'émission ne s'arrête pas là, puisque nous traitons aujourd'hui un deuxième film, et en l'occurrence, Paulina danser sa vie. Et pour en parler, je suis rejoint par Alice et Camilla. Bonjour à toutes les deux.
Bonjour Rémi.
Bonjour.
Alors Alice, de quoi s'agit-il dans ce film ?
Eh bien, comme dans la BD de Bastien Vivès dont est tiré le film, Paulina, c'est d'abord une petite fille qui rêve de devenir une danseuse étoile au théâtre du Bolshoï. Sélectionnée parmi des centaines d'autres fillettes, elle entre dans une école de danse prestigieuse où le célèbre danseur Nikita Bojinski devient son professeur et la forme avec dureté et intransigeance. Soudainement, Paulina est devenue une jeune fille gracieuse, souple, musclée, qui boit les paroles de ses professeurs et travaille sans relâche pour l'audition du Bolshoï qui arrive. Mais alors qu'elle est sur le point d'atteindre la consécration, elle découvre la danse contemporaine. C'est le début d'un périple qui a d'abord l'air d'une fuite en avant. Paulina renonce au Bolshoï, quitte la Russie et sa famille pour partir en France, à Aix-en-Provence, faire du contemporain. Là-bas, dans le pavillon noir, elle apprend la pulsation, les mouvements cassés, l'abandon des faux-semblants. Elle souffre et apprend dans ce cube de verre et d'acier qui héberge la troupe de la chorégraphe contemporaine Lysia Elzaï, double féminin d'Angelin Prejlokai, chorégraphe et co-réalisateur du film. Puis elle part à Anvers, capitale européenne de la danse européenne. Désormais, le corps et l'esprit de Paulina se battent pour désapprendre sa formation classique et rigide, mais sans perdre la rigueur et la technique qu'on lui a inculquée à jamais en Russie. Avec en toile de fond la musique répétitive de Philippe Glass, c'est un peu un anti-Black Swan qui nous fait suivre pas à pas cette jeune femme enfiévrée qu'est Paulina et qui, plus que tout, veut danser la beauté et le rythme sans entrave.
D'accord, mais merci beaucoup pour ce joli résumé. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé de ce film ?
Moi j'ai beaucoup aimé. Comme tu dis, c'est un peu un film d'apprentissage, mais aussi de désapprentissage en quelque sorte, puisqu'il faut qu'elle se défasse de sa formation de danse classique rigoureuse. Et on a l'impression qu'il y a deux mondes qui vont s'opposer, danse classique et danse contemporaine, mais au final le film montre une alliance des deux et j'ai beaucoup... j'ai trouvé ça très bien.
Oui, moi aussi j'ai beaucoup aimé Le seul point qui m'a pas touchée plus que ça, c'est les dialogues, mais finalement, la place accordée aux chorégraphies ou simplement tout le temps où les corps sont filmés de très près, en gros plan, ne serait-ce que son visage, ses yeux à elle, font toute la beauté du film et toute la tendresse pour la danse qu'ont les réalisateurs.
Oui, et justement, j'ai trouvé que dans le film, il y a des moments où la danse fait avancer le récit. Par exemple, lorsque Paulina commence sa relation amoureuse avec le petit français, ou lorsqu'elle est en dépression à Anvers et on voit cette scène où elle commence à danser le long des quais avec son colocataire. Et là, j'ai l'impression qu'il y a comme des ellipses narratives, mais parce que la danse a montré, a fait avancer le récit.
Oui, je pense que c'est ce qui est dit dans le titre, enfin le sous-titre, Danser sa vie, c'est qu'il y a aussi un aspect que le film veut à tout prix montrer, c'est que la danse dépasse la scène, les cours de danse, l'apprentissage, et c'est aussi juste un parcours individuel et des envies de danser un peu n'importe où.
Oui, c'est, il y a un brouillage des frontières entre exactement ce que tu dis, les endroits spécifiques pour la danse et finalement, on voit le regard de Paulina qui se transforme au fur et à mesure et qui commence à voir la danse partout dans la vie et qui sait s'inspirer de ce qu'elle voit et elle sait trouver des rythmes et des mouvements dans la vie quotidienne qu'elle intègre ensuite dans son univers de la danse.
Donc du coup, un film qui fait entrer la chorégraphie dans le cinéma et dans l'intégralité des scènes, même celles qui ne sont pas chorégraphiées. Et à l'opposé, peut-être, est-ce que le regard du cinéaste est aussi un regard chorégraphique? Est-ce que sa caméra danse, elle aussi, dans ce film?
Oui, tout à fait. Surtout qu'il y a une... J'ai trouvé qu'il y avait une très grande attention à laisser les corps envahir l'image dès qu'il y a des moments dansés ou même dès que, par exemple, on filme une marche d'un personnage. C'est des assez gros plans qui laissent le corps envahir l'image et ne pas, qui ne sont pas, absolument pas coupés. Même le montage est assez lent et fluide.
Et on a aussi deux manières de filmer la danse, si c'est de la danse contemporaine ou de la danse classique. On voit comment dans la danse contemporaine, il y a cette puissance de mouvement qui sont démesurés. On voit la passion qui peut être palpable sur scène pour les spectateurs. Alors que dans la danse classique, même dans la manière de filmer, on veut avoir cette image d'une perfection et d'une image parfaitement contrôlée, mais peut-être un peu glacée. Et donc ces deux types d'esthétiques qui se confrontent et qui se voient même à travers la caméra.
Et puis les moments où c'est de la danse classique qui est filmée, il me semble que c'est à peu près que des moments de cours ou alors des moments d'audition, de concours. Donc il y a un côté tout de suite où la narration elle-même décrédibilise, enfin en tout cas choisit clairement son camp entre danse contemporaine et danse classique.
Oui,
Parce que pourtant, dans la danse elle-même de Paulina, on voit bien qu'elle arrive à prendre ce qui la nourrit encore de sa formation classique et ce qu'elle découvre dans le contemporain qui la séduit.
Oui, Angélien Préliocage est lui-même chorégraphe contemporain à Aix-en-Provence, je crois. Donc il y a peut-être cette préférence pour la danse contemporaine, mais Paulina sait se nourrir de ces deux maîtres qu'elle a, donc Bojinski et Lyria Alsage, interprétée par Juliette Binoche. Et donc, elle doit un peu contrebalancer ces deux apprentissages, et c'est pour ça qu'elle sombre dans la deuxième partie du film, dans une sorte d'angoisse existentielle. Elle ne trouve plus sa place jusqu'à ce qu'elle puisse trouver sa propre expression personnelle.
Et justement, ça pose la question de l'identité de ce personnage, parce qu'elle a quand même une vie à côté, puis un parcours assez particulier. Enfin, je veux dire, elle vient de Russie, etc. Et du coup, comment cette danse s'inscrit quand même dans un cadre social dans ce film?
Je pense que Paulina donc, vient de la banlieue de Moscou, d'une classe moyenne plutôt pauvre, et on voit ses parents avoir des problèmes économiques. Donc je pense que pour la famille de Paulina, le fait que Paulina rentre au Bolshoï, ça représente une réussite sociale, mais aussi peut-être la sécurité économique, en plus de rentrer au Bolshoï, donc le prestige national que ça représente. Et justement, pour la famille de Paulina, tout ça s'effondre quand leur fille décide de tout quitter pour l'incertitude d'une carrière contemporaine. Et sauf que pour Paulina, contrairement à sa famille, c'est pas une question d'argent, c'est une question de vraiment suivre une passion et explorer toutes les voies que lui ouvre la danse.
Et au-delà de ça, on sent qu'elle a... En tout cas, elle n'hésite absolument pas à errer dans les villes, à prendre des trains. Enfin, qu'elle a une envie vraiment de partir seule, d'être un peu secouée par la vie, par l'incertitude. Et qu'on sent qu'elle le cherche en partant de Russie. Et c'est aussi pour ça que c'est un roman, plutôt un film d'apprentissage. C'est que tout simplement, on voit une jeune femme apprendre à vivre toute seule et à dire ce qu'elle a envie de faire et à
s'affirmer peu à peu, voilà. Et à trouver sa propre voie et aussi sa propre danse. Et c'est aussi, c'est en Russie, à un moment, elle dit « J'ai l'impression d'interpréter les mouvements à la perfection, une succession de mouvements, mais je n'ai pas l'impression de danser. » Et je pense que c'est justement là qu'il y a une prise de conscience pour savoir ce qu'est la danse pour elle, comment il faut danser, et qui finalement devient, comme le dit le sous-titre, danser sa vie, s'exprimer d'un fond personnel, au lieu d'interpréter mécaniquement les chorégraphies des autres.
Et du coup, c'est peut-être ça qui en fait l'anti-Black Swan dont tu parlais, cette dimension constructive du film, alors que Black Swan est peut-être l'image qu'on a du monde de la danse, et est une image d'une espèce de destruction permanente et d'une guerre, d'une lutte.
Oui, et puis ne serait-ce que dans... Il y a un côté un peu toujours assez léger et joyeux, même quand elle est en dépression. Ne serait-ce que le visage de l'actrice qui incarne Paulina, on dirait une petite poupée, elle a des yeux bleus très liquides et lumineux. Et ne serait-ce que... sachant que son visage est filmé sans cesse en gros plan, avec même une tendresse, on voit ses petites mèches de cheveux, son cou, ce genre de choses. Il y a toujours un rapport très tendre à son corps, à son travail sur son corps, même quand elle se blesse,
oui,
qui est contraire à tout ce qu'on voit dans Black Swan.
Justement, dans Black Swan, comme tu dis, ça pousse vers la destruction jusqu'à la scène finale qui s'achève par la mort de la ballerine. Alors qu'ici, la danse est toujours quelque chose de positif, c'est ce qui la sort justement de son marasme, de sa dépression. C'est la vie, la danse, c'est vu comme sa voie de rédemption. C'est le moment où elle se sent bien dans son corps, où elle est le plus joyeuse et le plus libre.
D'accord, donc c'est un film que vous recommandez, c'est ça ?
Oui, tout à fait.
Oui.
D'accord, et bien profitez-en s'il passe encore la semaine prochaine, parce que les séances seront rares. Nous continuons avec notre habituel petit tour d'horizon de l'agenda de la semaine à venir, et je commence avec Kinotayo, Festival du cinéma japonais contemporain. 7 films japonais inédits ou en avant-première seront à découvrir du 14 au 18 janvier dans les deux CNP et à la Fourmi, et la programmation fait vraiment envie. Entre la fresque languissante et douloureuse de Bangkok Nights de Katsuya Tomita, la sensibilité à fleur de The Three Stories of Love filmée par Yosuke Hashiguchi, la violence psychopathe de Destruction Babies qui a valu à Tetsuya Mariko le prix du meilleur cinéaste émergent au dernier festival de Locarno, et puis le drame intime filmé par Koji Kukada dans Harmonium, qui sort également en salle ce mercredi et nous montre une famille peu à peu fissurée par le retour d'un ancien ami du père. Voilà, donc vous pourrez retrouver toutes les informations sur ce festival sur le site des cinémas concernés, à savoir les deux CNP et la Fourmi, et c'est du 14 au 18 janvier. Et puis ce sont les derniers jours pour voir Go Home de Jian Shuaib avec Goldshifteh Farahani, laquelle est également à l'affiche de Patterson que nous vous conseillons de voir la semaine dernière. Ce film raconte l'histoire de Nada qui revient au Liban où, des années après la fin de la guerre civile, elle est désormais comme une étrangère. Elle retrouve les ruines de la maison familiale dont la pierre blanche est désormais fêlée, souillée comme de l'intérieur. Et l'image de son grand-père disparu pendant la guerre revient hanter ses rêveries. Un film intime à l'ambiance vaporeuse encore pour quelques jours en salle au cinéma Opéra. Je continue avec 3000 nuits de Mai Masri, qui raconte l'histoire terrible d'une femme découvrant qu'elle est enceinte dans la prison israélienne où elle est enfermée pour un attentat avec lequel elle n'a rien à voir, puis sa décision de garder l'enfant et de l'élever derrière les barreaux. Premier film de fiction pour la réalisatrice, où, écrit l'humanité, la force des images s'allie à celle de l'engagement. Un film dur mais porteur d'un espoir déterminé et tenace, et il y a encore quelques séances pour le voir au Comédia. Ensuite, grand monument, Vertigo d'Hitchcock ou Sueur froide pour les francophones à l'Institut Lumière ce week-end. Et même si je ne l'ai pas vu et n'aurai pas non plus la chance d'être à Lyon ce week-end, je ne peux que vous encourager à ne pas manquer celui qu'on considère souvent comme le plus grand film du maître Alfred Hitchcock, qui dirige ici James Stewart et Kim Novak dans le rôle d'un ancien policier sujet au vertige et de l'épouse suicidaire qu'un ami lui demande de suivre. Le piège est tendu au personnage comme au spectateur et il constitue à n'en pas douter 128 minutes de bonheur total présentées en copie restaurée à l'Institut Lumière samedi et dimanche. Et je termine avec Lumière, l'aventure commence, un film composé et commenté par Thierry Frémaux à partir des courts-métrages des frères Lumière qui, non contents d'avoir inventé la caméra, ont également jeté les bases des techniques du cadrage et du montage. C'est ce que donne à voir ce film, compilation de séquences comme le célébrissime Arroseur arrosé, est présenté par Thierry Frémaux, à savoir que 4 avant-premières présentées par Thierry Frémaux seront organisées au CNP Terreau ce dimanche soir.
Ted, suit up!
Lana. Lana. Lana.
Lana!
What?
Danger zone.
Say my name.
Eisenberg.
You're goddamn right.
Cool. Cool, cool, cool.
Boy, these pretzels are making me thirsty.
While my days are not taking you seriously, they're certainly coming to a middle.
Plata. Or plomo.
Democracy is so overrated.
Office.
Winter is coming.
Et vous l'attendiez tous depuis sa première édition la semaine dernière. Voici la chronique de Pierre qui va nous parler de séries. Et il semblerait que cette semaine, il s'agisse de séries humoristiques. Bonjour Pierre.
Bonjour Rémi.
Vous allez entrer dans un service d'élite, Berlou. Vous serez formé par des fonctionnaires d'élite.
Service de quoi ?
Au service de la France.
Je vais devenir agent secret.
Il fait un peu pecno, non ?
Vous savez mentir ?
Oui.
Donc non.
C'est pas que je veux pas l'emmener, mais éliminer au service de la France, c'est la base.
Mais qu'est-ce que j'ai fait, oh bon Dieu ? Le but de la mission, ça n'est pas que de culbuter la cible, c'est aussi de l'empoisonner.
Qu'est-ce que c'est que ce ramassis d'inepties bolcheviques ?
La CIA est là, les Américains.
La CIA, la CIA.
Les enfants comparés au KGB.
Qu'est-ce qu'il veut ?
Nous voulons vous.
Nous vous voulons.
Qu'est-ce qu'ils font comme faute ?
Cette semaine, je vais me pencher sur deux séries au format court, soit 21 minutes. La première est une production française bien de chez nous, la deuxième nous vient tout droit des États-Unis. Elle partage un thème commun, le monde de l'espionnage. Toutefois, il n'est pas question de séries sérieuses comme Deutschland 83 que nous verrons plus tard ou Homeland, mais ce sont deux séries à l'humour bien tranché. Tout d'abord, au service de la France, créé par Jean-François Alain, auteur des deux films OSS 117. C'est une série qui a été diffusée sur Arte l'année dernière, pour l'instant composée d'une unique saison de 12 épisodes. Aucune date n'est encore annoncée pour la très attendue, surtout par moi-même en fait, saison 2. Avec au service de la France, plongé au cœur des années 60, mais côté français cette fois, on suit avec plaisir l'entrée du jeune André Merlot dans les services secrets français, où le tampon est roi et l'Afrique c'est l'Afrique, mais l'Algérie c'est la France. Il est encadré par un ensemble d'agents aussi arrogants que franchouillards. Redécouvrez donc avec plaisir les différents événements qui ont marqué la guerre froide, la décolonisation et l'après-guerre. C'est le premier point très positif de cette série, l'historicité. Bien sûr, les événements de la série sont tous fictifs, par exemple l'indépendance du Dahomey ou l'invention du détournement d'avion par des agents français dans l'unique but d'assister à un match de rugby. Mais de véritables faits historiques ponctuent les épisodes et servent de petits détails parsemés ci et là pour vraiment ancrer la série dans son contexte historique. Rien n'est laissé au hasard dans une réalisation propre avec quelques jeux visuels. Les accessoires et les décors ne trahissent en rien l'époque. En tant que féru d'histoire, je ne pouvais pas ne pas me laisser emporter dans une France en plein changement, sourire lorsqu'un des agents héberge 4 généraux français dans sa résidence d'Alger, ou quand Merlot amène sa tailleuse au cinéma, voire à bout de souffle. Le contexte des années 60 permet à Jean-François Alain de faire l'humour qu'on lui connaît et qui marche parfaitement. Certains faits historiques sont tournés en dérision, ou même causés par des agents totalement déconnectés de la réalité. Bien sûr, c'est avec le décalage historique que l'on peut vraiment se prendre au jeu et rire de ces Français en plein changement des années 60. On ne peut que rire de voir la France moquée à ce point dans son arrogance envers la CIA ou ses colonies. Les commentaires sexistes et racistes sont toujours à prendre au second degré, bien sûr, tellement les personnages qui les tiennent sont ridicules et égocentriques. Par exemple, tout un épisode tourne autour de la grève des agents, parce qu'ils ne profiteront plus de billets de train gratuits, une prime remontant à l'époque où les fonctionnaires du gouvernement de Vichy devaient faire la navette entre Paris et Vichy. Bien que j'aime tout particulièrement les films OSS 117, je ne peux m'empêcher de préférer Au service de la France, qui s'avère plus facile à digérer de par son format court, et le fait que les leitmotifs de l'humour de Jean-François Alain sont répartis sur plusieurs personnages. Ça permet à la fois d'éviter les lourdeurs des OSS 117, tout en allant plus en profondeur dans les défauts des personnages, ainsi que justement leur humanité. Ils ne sont pas juste des personnages ridicules qui enchaînent les répliques de mauvais goût ou déplacées. Toutefois, je dois émettre une réserve quant aux derniers épisodes de la série. Une certaine trame se déploie et il commence à y avoir une vraie histoire sérieuse qui alourdit le ton du début de la saison. C'était justement le fait que chaque épisode est une histoire complète, avec des gags qui s'intègrent parfaitement dans cette petite histoire qui m'a accroché. En perdant son humour, la série tombe un peu dans quelque chose qui se prend trop au sérieux. Alors que c'est tout l'inverse qui justement crée cet humour si particulier. Du coup, j'attends de voir ce que nous réserve la saison 2, puisqu'en plus, la saison 1 se termine sur un horripilant cliffhanger, cerise sur le gâteau de la série qui se veut sérieuse. Dommage. Mais allez tout de même regarder la saison 1, dont les premiers épisodes valent amplement le détour. Je lui donne 14 pays décolonisés sur 20 colonies et la mention à regarder pour ces répliques qu'on peut ressortir à tout va. Sur un ton totalement différent maintenant, je vous recommande vivement la série Archer.
Improve your work environment with these simple tips.
Just the tip?
Be politically correct.
A freaking hobbit works here?
No, he's just
Lana,
a...
they're called little people,
will
not
you
hobbits.
He's...
What, you're black? Ish?
Respect boundaries.
Get out of the way!
What? Are you gonna shoot me again?
Yes!
Oh. Well then hang on.
Listen effectively.
Thoughts?
Yeah,
toujours dans le milieu de l'espionnage, celle-ci créée par Adam Reed est diffusée depuis 2010 sur FX. Et je peux vous dire que même après 7 saisons, j'attends avec impatience la prochaine. Car Archer a su se réinventer dans la 5ème saison pour développer des arcs plus particuliers, tenus sur toute une saison avec succès à chaque fois. Petite particularité ici, c'est une série animée dont les images n'ont fait que s'améliorer au point de devenir parfois vraiment magnifique. Le style de dessin fait très comics et permet donc d'être à la fois réaliste et pratique pour représenter les scènes d'action. Car oui, cette série est pleine d'action, mais aussi d'absurdité en tout genre. Simple exemple de l'ambiance décalée de la série, le pilote a été recréé plan par plan avec un seul détail changé. Le personnage principal d'Archer a été remplacé par un vélociraptor parlant avec des bruits de vélociraptor. Voilà pourquoi j'adore cette série, que je viens d'ailleurs de binge-watcher pendant les derniers jours des vacances. Les personnages sont vraiment tous hauts en couleur, tout en restant bien déterminés, facilement reconnaissables et surtout, bien qu'il soit impossible de s'identifier à l'un d'eux tellement ils sont dans l'excès, on s'y attache vraiment. Le principe de la série repose sur l'excès, justement, et le pas du tout politiquement correct, ce qui peut gêner certains spectateurs. Chaque épisode est une mission qui finit toujours par une situation absolument absurde, dont les personnages arrivent à s'en sortir par une accumulation de n'importe quoi d'explosions ou juste d'égoïsme incommensurable. On regarde ahuri et plié en quatre Archer réaliser tous ses rêves d'espion, se moquer totalement de James Bond, ou juste être totalement déconnecté de la réalité, parce que comme il explique dans l'épisode final de la saison 6, il n'a aucune notion de sa propre mortalité. Ce qui correspond parfaitement à l'idée de la série. Son personnage éponyme s'en sort toujours, et ce qui crée l'humour, c'est à la fois voir comment il s'en sort, ou juste cet enchaînement de quiproquos et l'accumulation des conflits entre les personnages. Ajoutez à cela des tonnes de références à la pop culture, au cinéma des années 60-70, ou des clichés assumés et tournés en dérision, et vous avez le cocktail miracle d'Archer. La série se passe dans un contexte historique totalement imaginé et indéterminé, avec des téléphones portables et des rayons laser au milieu de la guerre froide. Ça permet d'ajouter des références à des faits historiques, en critiquant ouvertement la CIA ou l'URSS tout en modernisant le monde de l'espionnage que l'on connaît maintenant si bien. Par contre, je ne conseille pas du tout cette série à ceux qui n'aiment pas la vulgarité. Le sexe est une question vraiment récurrente qui fait totalement partie de la série, Archer étant bien sûr un womanizer au même niveau que James Bond. De plus, âme sensible parfois s'abstenir. La violence est aussi au programme et il est rare qu'un épisode se passe sans mort. De plus, les situations gênantes sont vraiment parfois gênantes pour les personnages, toujours dans cette optique de l'excès, que je trouve à la fois pas prise de tête du tout et vraiment capable de rendre hilarante n'importe quelle situation. Je me retiens de vous bombarder d'exemples pour ne pas vous spoiler toutes ces pépites, mais foncez sur Netflix ou quelques sites de streaming pour regarder, ou au moins essayer, Archer. Je lui accorde facilement la mention à binge-watcher d'urgence si vous voulez vous changer les idées ou rire un bon coup, avec 18 renversements de gouvernement légitime et démocratique sur 20 républiques bananières. Voilà. C'est tout pour cette semaine sur le thème de l'humour et de l'espionnage. On se retrouve la semaine prochaine pour une série plus ancienne de science-fiction cette fois.
Merci beaucoup Pierre pour cette chronique et je trouverai donc de quoi occuper mon prochain week-end. Voilà, d'étoiles plein les yeux, c'est fini pour aujourd'hui. Vos commentaires, avis et réactions sont les bienvenus sur la page de l'émission sur transistor.fr. Et puis aujourd'hui pour le cinéma, c'était Anastasia Kozireva, Camila Mello et Alice Bocara. Pour les séries, Pierre Lemoel, production et réalisation, Rémi Cerda. Et à très bientôt sur transistor.fr.